J'ai eu une dilatation du cœur qui a provoqué une insuffisance cardiaque qui a été stabilisée sous médication pendant 2 ans. Et puis à terme, voilà, je me suis retrouvé sur liste d'attente pour une greffe.
Sébastien Delapierre a 47 ans. Il est en attente d'un cœur depuis mai 2017.
Actuellement, j'ai ce qu'on appelle une assistance ventriculaire. C'est une turbine qui est implantée dans le cœur pour aider le cœur à perfuser le corps correctement et pour pouvoir maintenir une certaine forme physique pour être d'attaque le jour où je subirai la greffe.
Est-ce qu'il y a un délai d'attente pour vous?
On m'avait fixé 18 mois, donc pour le coup, je suis un peu dans le tir puisqu'on y a 17.
Comment on se sent lorsqu'on est depuis des mois sur liste d'attente?
Un peu usé, forcément, pas par le temps, mais plein d'espérance aussi, parce que tout dépend de la raison pour laquelle on attend. Moi, j'attends pour des bonnes raisons, c'est-à-dire je suis suffisamment en bonne santé pour attendre un cœur compatible. Donc, j'attends pas parce que je suis trop malade pour qu'on m'opère, mais vraiment parce que je peux attendre sur un cœur optimal.
Pour comprendre la situation de Sébastien, il faut se rappeler que la législation fédérale en matière de transplantation date d'une quinzaine d'années seulement. Dans notre pays, le débat public sur la question est donc très récent par rapport à nos voisins. Par exemple, en Espagne ou en Belgique, la loi relative au consentement de la population a été adoptée il y a plus de 30 ans. Pourtant, selon les statistiques de Suisse Transplant, 8 Suisses sur 10 consentiraient à donner leurs organes de leur vivant. Malgré tout, plus de la moitié des familles refusent de prélever les organes d'un proche juste après sa mort. Pour Raphaël Hammer, sociologue et professeur à la Haute École de Santé Vaud, la réponse est contextuelle. Une population en pleine santé répondra plus favorablement à la question du don d'organes qu'une famille touchée par une situation de deuil. Selon lui, il est capital de comprendre les différents types de refus qui entraînent ces familles à s'opposer au prélèvement d'organes sur un proche défunt.
Il y a différents types de refus qu'il faut imaginer, qui peuvent être des refus dus à un refus de conviction, par exemple. Non, je suis contre le don d'organes pour des raisons religieuses, spirituelles ou pour des questions de représentation du corps. Il peut y avoir des refus parce qu'on a une représentation erronée ou une méconnaissance de la façon dont les choses se passent. Et là, typiquement, c'est là où le politique peut agir. Essayer de réduire les malentendus entre les proches et ce que c'est, ce que ça implique d'autoriser un prélèvement d'organes.
Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça représente et qui refusent pour cette raison-là?
Alors, on sait, ça par toute une série d'études, que la question de la mort cérébrale n'est pas évidente à comprendre d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire d'être persuadé qu'il s'agit bien d'une seule et une seule mort. Et puis aussi, je dirais, cognitivement, intellectuellement, la mort cérébrale, c'est pas quelque chose qui est encore évident dans la société, pour toute la population, de comprendre la différence avec la mort classique cardiovasculaire, même s'il s'agit toujours d'une seule et même mort, d'un seul et même processus. Il y a évidemment la surcharge émotionnelle, je pense qu'il ne faut évidemment pas négliger, situation de deuil, souvent traumatique, inattendue, et on peut comprendre que dans ce contexte-là, pour certaines personnes, la question du don d'organes devient inaudible. Enfin, ce n'est pas la préoccupation première. Donc effectivement, dans ce cadre-là, si les gens entendent pour la première fois parler du don d'organes, ça peut être vécu comme une certaine violence. Et dans ce sens-là, je pense que c'est effectivement préférable que dans la population, on soit préparé à ce que cette question nous soit posée selon les circonstances.
Au-delà des efforts d'information et de sensibilisation de la population, l'étape suivante consiste à donner les moyens aux donneurs convaincus de faire connaître leurs décisions. À l'heure actuelle, ils ont plusieurs manières de le faire. Cocher la case « donneur » sur l'application santé de leur smartphone ou obtenir une carte de donneur d'organes. Mais pour Franz Immer, directeur de la Fondation Suisse Transplant, ces moyens ne sont pas suffisants.
Nous, ce qu'on observe en clinique, c'est effectivement qu'il y a moins de 5% de donneurs qui sont registrés où effectivement on a trouvé une carte de donneur. Le porte-monnaie, on ne l'ouvre pas aux urgences, aux soins intensifs. Il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, cette carte de donneur était une excellente idée. Aujourd'hui, souvent la famille n'est même pas conscient que le défunt a été porteur d'une carte de donneur dans son porte-monnaie.
Si le taux de refus est aussi élevé en Suisse, c'est principalement à cause de la méconnaissance des familles de l'avis du défunt de donner ses organes après sa mort. Pour résoudre ce problème, la Fondation Suisse Transplant a lancé début octobre le registre national du don d'organes.
C'est une modernisation de la carte donneur pour donner accès 24 heures sur 7 à la vie, à la décision de chacun d'entre nous pour pouvoir respecter la vie de la personne décédée concernant le don d'organes et tissus.
Pour d'autres, la question du don d'organes doit être réglée par une modification de la Constitution. Depuis 2017, la Jeune Chambre internationale de la Riviera est en quête de signatures pour son initiative populaire Sauver des vies en favorisant le don d'organes. L'initiative, qui devrait être déposée au printemps, demande l'application du consentement présumé. Comme en Belgique, en France ou en Espagne, chacun deviendrait un donneur à la base, à moins de faire part de son refus sur un registre. Le principe fonctionnerait sur le modèle du « qui ne dit mot consent ». Partir du principe que chacun est donneur d'organes ou inscrire son consentement explicitement sur un registre national du don, deux solutions proposées aux Suisses à quelques mois d'intervalle. Ces propositions ne risquent-elles pas de se court-circuiter l'une l'autre ? La réponse de Franz Immer.
Moi, je pense effectivement, si on a 95% de la population qui se met dans le registre, on peut renoncer à l'initiative. Moi, je ne pense pas qu'on va aboutir à ce chiffre. Moi, je pense plutôt si on obtient 20 à 30% de la population qui se met dans ce registre, c'est déjà un grand succès. Alors, je pense qu'effectivement, la modalité du consentement, c'est la prochaine étape qu'on devrait discuter devant le peuple avec cette initiative qui est très prêt à réussir à compléter ses signatures.
Donc pour vous, l'initiative du consentement, elle est à la base beaucoup plus importante et intéressante que le registre ?
Tout à fait, je pense. Effectivement, je suis presque convaincu qu'il y a une majorité des gens qui ne vont pas s'exprimer. Alors il reste cette discussion. Et puis cette discussion actuellement, elle est menée en Hollande, en Angleterre et en Allemagne. Alors je pense que c'est normal qu'aussi en Suisse, cette discussion va être menée suite au lancement de cette initiative.
Plusieurs pays d'Europe ont choisi le système du consentement présumé, comme la Belgique, qui l'applique depuis 1986. Aujourd'hui, le pays compte plus de 30 donneurs par million d'habitants. C'est presque le double du score suisse. La Belgique se situe donc dans le peloton de tête du classement européen. Nous avons demandé à Luc Colenby, expert en transplantation au ministère belge de la Santé publique, d'expliquer de quelle manière le consentement présumé est appliqué dans son pays.
Tous les Belges sont donneurs, mais dans la loi, c'est aussi expliqué que le docteur doit informer la famille, que la famille veut, on doit respecter ça aussi.
Le système du consentement présumé n'est pas la seule raison qui fait de son pays un des champions d'Europe en matière de dons d'organes.
C'est important aussi que le gouvernement travaille aussi pour les dons d'organes. C'est aussi très important de donner de sensibilisation, mais aussi pour les hôpitaux. Tous les docteurs doivent penser, quand il y a quelqu'un qui est mort cérébral, ils doivent penser que c'est possible un donneur.
Former le personnel médical à la prise en charge de donneurs d'organes potentiels, une mesure capitale pour favoriser le don, selon Luc Colenby. Un avis aussi partagé par la Confédération, puisque depuis 2013, un plan d'action de l'Office fédéral met l'accent sur la formation du personnel soignant et des coordinateurs de dons d'organes en milieu hospitalier. Delphine Carré, coordinatrice au CHUV, nous explique les étapes dans l'accompagnement des familles lorsqu'un proche décède.
La première des étapes, c'est effectivement qu'ils aient compris la situation, c'est-à-dire que tout a été fait pour sauver leurs proches et que là, on arrive à une impasse. Et on va cheminer avec eux, en fait, dans cette recherche de ce qu'aurait voulu la personne défunte. Donc ça veut dire prendre du temps, ça veut dire les laisser s'exprimer. Mais par exemple, ça peut être des souvenirs qui tout à coup remontent à la surface et puis on se remémore quelques petites tranches de vie. Et c'est ça finalement qui des fois les amène à se dire « Ah ben oui, finalement, sa volonté, ça aurait été d'aller dans ce sens-là. »
Comment est-ce que vous procédez pour rechercher leur consentement ? Pour les convaincre.
On n'est pas là pour convaincre. On est vraiment là pour les accompagner dans cette prise de décision, hein, ce d'autant plus si ils n'avaient pas connaissance de la volonté du défunt. Mais on n'est certainement pas là pour avoir un oui absolument au don d'organes. Faut qu'on fasse très attention justement par rapport à ça, et puis vraiment d'accueillir leur réponse, quelle qu'elle soit, sans jugement, qu'on ne leur mette pas de pression. Il n'est pas question de leur parler des personnes sur liste d'attente qui décèdent chaque semaine faute d'organes, et puis ce qui amènerait un sentiment de culpabilité chez ses proches.
Malgré un taux de refus record en Suisse, Delphine Carré précise que le don d'organes permet au contraire à certaines familles d'avancer dans les étapes du deuil.
Le fait d'aborder le don d'organes, ça peut aussi quelque part donner du sens à une mort qui peut être survenue dans un contexte totalement absurde et puis qui considère comme profondément injuste en fait.
Une vision partagée par Sébastien Delapierre qui lui se situe à l'autre bout de la chaîne du don d'organes.
Ça peut donner un sens à la mort tragique d'une personne. Si cette mort peut sauver des vies, pour moi, ça n'a pas de prix.
Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la famille de votre futur donneur ou à votre futur donneur ?
Merci.
Accroché à son téléphone, Sébastien garde espoir et diffuse son témoignage à qui veut l'entendre. Un espoir partagé par la Confédération qui souhaite parvenir à 20 donneurs par million d'habitants d'ici la fin 2018. En attendant, si le nombre de donneurs augmente ces dernières années, des facteurs légaux, politiques et sociaux continuent d'expliquer la mauvaise position de la Suisse dans le classement du don d'organes en Europe. Notre pays reste en attente d'un vrai débat public sur le sujet pour agir sur le manque d'information et de sensibilisation de la population et le taux élevé de refus des familles. L'arrivée récente du registre national mis en place par Suisse Transplant et celle de la future initiative populaire sur le consentement présumé devraient finir d'élargir et d'ancrer la discussion. Si le texte récolte suffisamment de signatures, il permettra aux Suisses de réfléchir sur ce qu'il adviendra de leur corps après la mort et sur la manière de le faire savoir.